ce matin, ce que j'aurais voulu avec vous, c'est mettre un peu en évidence le nombre de fois où nous sommes confrontés entre la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité vous rendra libre. Jésus parle très souvent de la vérité et puis le mensonge dans notre vie, avec le père du mensonge. Et faire un petit peu ce partage entre les temps d'épreuve, les temps de chute, les temps de victoire. Parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dernier dimanche de l'année, c'est le temps du bilan. Et dans le temps du bilan, peut-être que si vous vous remémorez l'année passée, il y a eu des moments très bien, des moments extraordinaires, mais vous savez aussi peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez été piégé par le mensonge. Vous avez été attaché par le mensonge, emprisonné par le mensonge, lié par le mensonge. Et en faisant ce bilan, j'ai conscience que l'année prochaine, le père du mensonge sera toujours là, les mensonges seront toujours là, et l'année prochaine, vous, comme moi, nous pouvons de nouveau être liés par le mensonge, emprisonnés par le mensonge, esclaves du mensonge, dépendants du mensonge. Alors je crois que c'est bien peut-être de terminer l'année, avant de prendre des résolutions pour l'année prochaine, en faisant ce bilan, de dire, mais comment mieux reconnaître le mensonge? C'est vrai, si on doit lutter contre quelque chose qui va nous lier et nous attacher, si on veut s'en libérer, il faut d'abord pouvoir le reconnaître facilement. Ou sinon, on se bat contre un ennemi qu'on ne discerne pas. Et c'est un peu l'objectif de ce matin. C'est sur base d'un passage qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, des versets 1 à 11, de nous rappeler que nous nous battons contre quelqu'un de puissant, le maître de l'art du mensonge. Apprenons à identifier les mensonges et apprenons, avec l'aide de Dieu, de lutter, de nous en libérer. Alors, si quelqu'un veut bien nous lire ce passage-là, ce serait gentil. Merci beaucoup. Voilà un texte qui, justement, met en évidence un certain nombre de principes précieux pour nous, quant à savoir quelles sont les tactiques du père du mensonge, celui qui veut nous enchaîner et nous lier. Je vous invite peut-être, au départ de ce texte, de trouver 5 critères qui sont des critères fondamentaux pour nous permettre d'analyser les choses et justement de pouvoir réagir contre le père du mensonge. Le texte commence en disant « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et avant d'aller un peu plus loin, je voudrais quand même m'arrêter un moment sur le mot « diable ». Évidemment, ce matin, on est entre nous. On sait ce qu'on voit derrière le mot « diable ». Vous savez que c'est loin d'être le cas dans le monde où nous vivons. Le diable, c'est tout ce qu'on veut et n'importe quoi, parce que le diable, c'est ridicule. C'est une vieille histoire du Moyen-Âge, parce que le diable, c'est un truc du temps des sorcières. Je voudrais que ce matin, avant d'aller plus loin, on puisse se rappeler que non, le diable, c'est pas comme quelque chose qu'il y a dans la trilogie de la guerre des étoiles, c'est pas Dark Vador, c'est pas ça, c'est pas le côté obscur, c'est pas le taoïsme, c'est pas ça le diable. Ce n'est pas non plus ce que on entend souvent, les puissances positives et les puissances négatives qui sont en toi. Nous sommes dans un petit groupe, Viviane et moi, où on partage avec des gens un peu de tous horizons la parole de Dieu. Et c'est intéressant de voir comment chez ces gens, souvent, dès qu'on aborde un petit peu le diable, alors non, ce sont des forces positives et des forces négatives. Bien sûr qu'il y a des forces positives et des forces négatives. Mais le diable n'est pas une force négative qui émane de ma manière de penser maintenant. Non. Le diable n'est pas non plus un concept abstrait. Souvent, c'est une philosophie, le diable. Une philosophie, c'est dire sur quelque chose n'importe quoi. Je peux créer ici ma propre philosophie et avec mes arguments, vous allez me dire si c'est une bonne ou une mauvaise philosophie. Le diable n'est pas une philosophie. Ce n'est pas non plus, comme dans le yin et le yang, une sorte de divinité qui est la même que la divinité, mais dans le négatif de la divinité. Ce n'est pas l'équivalent de Dieu, le diable. Non. Dans la parole de Dieu, le diable, diabolos en grec, c'est le nom qu'on lui donne, mais on lui donne plein d'autres noms. Mais diabolos en grec, ça veut dire l'accusateur et le calomniateur. C'est un être. Il a été créé par Dieu. Si vous voulez en être convaincu, vous relisez le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. C'était un ange de lumière extraordinaire créé par Dieu. Mais son nom, c'est Diabolos. L'accusateur, le calomniateur. C'est celui qui t'accuse devant Dieu en permanence. C'est celui qui veut te faire tomber pour pouvoir plus facilement t'accuser. C'est celui qui veut te tromper, qui veut croire que tu n'as pas accès au salut, qui veut te faire croire que ce que Dieu dit est faux. C'est le calomniateur. Nous savons bien ce que c'est la calomnie. Nous savons combien dans une famille, dans un couple, dans un groupe d'amis, dans une église, la calomnie casse tout. Le diable, c'est son nom. Celui qui fait dire les mauvaises choses au moment où justement il ne fallait pas les dire. C'est son nom, c'est un être créé par Dieu. Cette parenthèse est en fait, revenons au texte que nous avons lu, pour essayer justement de pouvoir mieux lutter contre les mensonges du diable. La première chose qui me paraît importante quand on lit ce texte, c'est de se dire que le diable, il essaye de nous piéger. Il est comme ce lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais dans toutes circonstances, c'est Dieu qui règne sur nos contacts avec le diable, sur nos rencontres avec le diable, sur les moments où le diable veut nous piéger. Dieu continue de régner sur ces moments-là. Et c'est bien ce qui se passe ici. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, pour y être tenté par le diable. Alors c'est un passage difficile, hein, parce qu'on se dit, mince, donc, il y a Dieu qui prend Jésus et qui le tape là au désert pour dire, ah, maintenant, tu vas voir ce que c'est la tentation. Non, c'est pas vraiment ça. Dieu contrôle. Ça veut dire que c'est pas Jésus lui-même qui a décidé d'aller rencontrer le diable pour discuter ou pour lutter avec lui. Non, non. Jésus est venu pour vaincre le diable. Mais ce n'est pas lui qui décide d'aller à sa rencontre. Mais Dieu est en contrôle. On est dans un temps particulier, on est dans le moment où Jésus vient d'être baptisé, il commence son ministère, il est rempli du Saint-Esprit, hein, vous vous souvenez, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, une colombe descend, c'est l'Esprit qui remplit Jésus-Christ, et on entend la voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est rempli de toute la puissance de l'Esprit. Le ministère de Jésus vient de commencer, on peut dire le compte à rebours vient de commencer. Jésus va vers la croix, c'est le point de départ. Et là, le premier lieu de rendez-vous qu'il a, par son père, c'est avec le diable. Mais pas pour y être tenté d'une manière négative. Nous prions nous-mêmes, délivre-nous notre Père de la tentation. Si nous demandons à Dieu de nous délivrer de la tentation, c'est pas Dieu qui te pousse dans un trou pour aller voir comment tu vas réagir en étant tenté. Non, il faut prendre aussi dans la notion de la tentation une traduction qu'on peut donner qui est parfois un peu plus positif du même mot. Il est poussé dans le désert par l'Esprit pour y être vérifié par le diable, testé par le diable, éprouvé par le diable, examiné par le diable. C'est déjà différent. Nous sommes poussés dans des situations de vie pour être examinés, testés. Et là, dans ces moments-là, soit Christ qui vit en nous s'exprime parce que nous le laissons s'exprimer, soit nous sommes testés négativement et nous demandons pardon à Dieu. Deuxième élément, Dieu reste au contrôle des choses. Dieu et Satan proposent toujours deux interprétations d'une même réalité. C'est ce qu'on voit dans toutes ces propositions qui sont faites par Satan. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose qu'il nous faut toujours retenir. Toujours, toujours, toujours. Dieu nous propose une vision sur la réalité qui nous occupe et Satan nous en propose une autre. Toujours. C'est comme ça qu'il a conquis le monde. Voilà Adam et Ève, la terre entière, tout est à vous, vous êtes les maîtres, jouissez de tout, tout vous est sous votre domination, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, dans tout le paradis, vous n'y touchez pas, vous ne touchez pas à ça, parce que ça, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, et c'est la manière dont Dieu la présente à Adam et Ève. Satan, il prend la même réalité, le même paradis extraordinaire, le même arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il change la réalité. Comment ça? Ouais, vous avez le pouvoir sur toute la terre, tout est à vous, vous êtes les maîtres, vous faites comme vous voulez. Mais c'est pas vrai que si vous touchez à cet arbre-là, vous allez mourir. Si vous touchez à cet arbre-là, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme des dieux. C'est toujours comme ça que Satan fait. C'est toujours nous présenter l'autre réalité. Vous savez comment on dit, dans le langage courant, tu peux voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ici, c'est une question d'optimisme et de pessimisme. Mais à moitié vide, ce n'est pas la même chose qu'à moitié plein. Eh bien, Satan et Dieu, c'est comme ça la différence. L'événement vu et expliqué par Dieu, l'événement vu et expliqué par Satan. Et voyez-vous, si déjà, à chaque épreuve, à chaque mensonge du diable, chaque tentation du diable, chaque moment où on va se faire piéger dans notre vie par le diable, on se dit, attention, attention, il y a la vision que Satan me propose et la vision que Dieu me propose. Nous avons une approche très différente alors devant les mêmes circonstances. Tu peux vivre une difficulté, un emprisonnement, un esclavage, une épreuve aujourd'hui et voir ça en te disant que c'est la fin de tout. Que tu ne comprends pas pourquoi Dieu a fait ça dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi un Dieu d'amour a fait ça. Et tu te révoltes, et tu es mécontent, et tu te fâches, et tu pleures, et tu veux te suicider, tout ce que tu veux. Tu peux aussi voir le même élément et dire, de toute façon, qu'est-ce que Dieu me dit? Toute circonstance, tout événement concourt à mon bien si je l'aime. C'est les mêmes circonstances. Mais d'un côté, tu te révoltes et tu meurs, et de l'autre côté, tu attends l'œuvre de Dieu dans ta vie, pour grandir. Souvenons-nous que chaque fois que Satan va venir pour nous piéger, va venir avec ses mensonges, il y a ces deux réalités. À nous de discerner la réalité que le Seigneur nous montre, qui nous montre par sa parole. Troisième élément. Dans le texte, on voit que l'isolement, la privation, c'est un terrain qui, face aux mensonges de Dieu, nous met en état de faiblesse. Vous avez vu dans le deuxième verset, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bah oui, mince. Mais vous avez vu que Satan n'est pas venu chez Jésus le premier jour où il rentre dans le désert, où il est en pleine forme, où il vient de manger, où il vient de boire, où il n'a pas faim, où il n'a pas soif. Non, 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 non. Il va attendre le moment qu'il faut. Souvenons-nous que toujours, nous nous faisons piéger parce que Satan retient, recherche le moment qu'il lui faut. Quand tu es jeune converti, tout va bien, tu es rayonnant et tu vas de découverte en découverte et ton âme est contente et ton cœur est content et ton intelligence comprend et tout va bien. Et c'est pas à ce moment-là que Satan se manifeste. Là, il te laisse dans ton trip, il te laisse. Vas-y, vas-y. Mais la première fois que tu chutes lourdement, là, il est là. Tu vois, tout ça c'est du cinéma. Tu as pris des engagements, tu as dit des choses, mais tu vois, tu ne sais pas le faire. Tu vois, c'est une utopie. Tu vois, tu crois que, mais cette fois-ci c'est trop grave. Dieu ne va pas te pardonner. Ouais, Dieu t'a pardonné d'avant, mais maintenant que tu as pris l'engagement de le suivre, tu te rends compte comme quelle fausseté en toi. Non, Dieu ne va jamais pardonner ça. Tu dois être responsable de tes actes. Ou bien le contraire. Hein, vous êtes au marché, vous êtes en train d'évangéliser, et puis, waouh! Il y en a un, ça marche. Hein? C'est une personne qui l'écoute, une deuxième personne qui l'écoute, une troisième personne qui l'écoute. Et ça va, chaque fois qu'il parle de l'évangile, ça mord, ça touche des cœurs. C'est à ce moment-là aussi, Satan, il peut venir. T'es tellement extraordinaire, toi. Il est quand même temps qu'on sache que tu es un bon évangéliste, quand même. Il est quand même temps que tu prennes l'autorité dans ton église comme bon évangéliste. C'est toujours à ces moments-là qu'il est là. Hein? C'est... Je ne pense pas que Satan il va essayer de casser mon couple au moment où je suis follement amoureux de ma femme et où elle est follement amoureuse de moi. Je ne pense pas. Par contre, quand je vais devoir partir 3 semaines pour mon métier à l'étranger, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un chouette type, très compatissant, très gentil, très beau, qui justement va être mis sur le chemin de mon épouse. Et que moi aussi, avec ma secrétaire qui comprend tellement bien mes problèmes de travail et qui est tellement complice avec moi, peut-être que je vais l'apprécier vraiment énormément dans cette période où ma femme est au loin. C'est là que Satan agit toujours. Il nous appartient de nous souvenir que l'isolement et la privation aggravent toujours le danger du mensonge de Satan. Nous sommes plus vulnérables. Quoique, quelle que soit la tentation dans laquelle nous nous trouvons, vous savez que 1 Corinthiens 10, 13 nous affirme, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va toujours préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Toujours avec cette réalité-là dans le cœur, et avec cette mise en garde, si nous devons faire attention à l'isolement et à la privation, alors veillons à maintenir la communion fraternelle, mais la communion fraternelle dans le couple, la communion fraternelle dans notre famille, dans nos maisons, la communion fraternelle avec nos amis. C'est vrai que pour les jeunes, combien cette communion, pour les vieux aussi, mais pour les jeunes qui sont appelés à être bousculés tous azimuts dans tous les sens, dans toutes les directions. J'ai une petite nièce, je vois, elle est dans l'âge où les choses commencent à bouger, à basculer, et je vois qu'elle est partie sur une voie, mais rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête parce que dans cette dynamique-là, les copains vont dans la même dynamique, et les autres copains vont dans la même dynamique, et les autres vont encore plus loin, et les autres encore plus loin, et voilà, on est sur les rails. Je vous exhorte vraiment, les jeunes, à cultiver cette relation les uns avec les autres. C'est vrai, il y a ces groupes de jeunes, ces groupes où vous vous retrouvez, où parfois vous voyez des conneries, vous voyez qu'il y en a un qui n'est plus dans le coup, vous voyez qu'il y en a une qui va fumer, vous voyez qu'il y en a même un qui... Vous savez qu'il y en a même un qui se drogue. Mais peu importe, tant qu'il y a cette solidarité, tant qu'on ne laisse pas la place à la privation et à l'isolement, on est sur la bonne voie. Cultivons, frères et sœurs, ce qui est écrit ici, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, pour nous exciter aux œuvres bonnes. 4e élément dans ce texte, quand on voit toutes les réponses de Jésus aux formulations de Satan, on est frappé de voir que c'est la loi de Dieu qui est notre garde-fou. C'est la loi de Dieu qui est notre sécurité. C'est ce que Dieu dit qui est notre sécurité devant les mensonges de Satan. 9 fois sur 10, quand Satan nous piège dans le mensonge, il y a dans les ordonnances, dans les principes de Dieu, quelque chose qui contrecarre directement son mensonge. Évidemment, vous entendez, Jésus dit en permanence, il est écrit. Jésus n'a pas l'iPhone avec les derniers trucs et dit attends, hein, moi j'ai facile, hein, la Bible online et attends, ouais, attends, ce mot-là, ça veut aussi dire quoi encore, hein, ça veut dire ça. Et on en parle aussi dans un autre truc, c'est où encore, hein, ah oui, cela, c'est ce verset-là, ah, c'est facile. Ah, mais Jésus, il n'avait pas des rouleaux qu'il a sortis de sa poche comme ça en disant, le diable me dit ça, il veut me mentir en ça, attends, réponse numéro 1, petit B, petit C. Non, c'était dans son cœur, c'était dans sa tête. Si nous voulons pouvoir déjouer les mensonges du diable, il faut que nous connaissions aussi ce que Dieu dit des lois, des principes, des prescriptions qu'il nous donne. Et là, nous pourrons tout de suite dire, c'est un mensonge qui est en contradiction avec ce principe-là que Dieu dit clairement dans sa parole. 5e observation pour pouvoir discerner et réagir, ne pas nous laisser emprisonner par les esclavages ou les mensonges de Satan. C'est qu'il nous faut être familiarisés avec les mensonges principaux de Satan. Et on pourrait en citer beaucoup, mais quelques mensonges fondamentaux qui nous piègent très souvent. Le bonheur est dans le mal. Chaque fois que, dans ma vie, cette impression survient. Ouais. Les autres font ça et j'aimerais bien le faire aussi. Ouais. Ça doit quand même être tellement chouette de... Moi, je ne l'ai jamais fait, si... Ouais. Ça doit être tellement bien. Satan a l'art de faire croire aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, que le bonheur, il est dans le mal. C'est dans l'adultère que tu te réjouis, quoi. Allez, mince. T'as la même bonne femme depuis si longtemps, t'as le même mec depuis si longtemps. Réjouis-toi dans l'adultère. Ça, c'est le mensonge de Satan. C'est dans la drogue que tu fais des expériences extraordinaires. C'est là que tu te réjouis. Bien sûr, il ne va pas te dire que après tu crèves de douleur parce que chaque fois qu'il te manque ta dose, tu es prêt à t'écorcher tous les boyaux. Il ne va pas te le dire, ça. Il va seulement te dire, dans la drogue, tu vas trouver le bonheur. Dans l'alcool, tu vas trouver le bonheur. Dans la dépendance sexuelle, dans toutes les expériences sexuelles possibles, tu vas trouver le bonheur. Libère-toi, réjouis-toi. Chaque fois que quelque chose essaye de te piéger en te disant « C'est bête que tu vives comme ça. Ce serait tellement plus enrichissant et plus gai de vivre comme ça. » Tu es au bord du piège de Satan. Tu es déjà dans sa main. Méfie-toi, méfie-toi. Deuxième mensonge où Satan excelle. Hein. Dieu veut te priver de ta liberté. Il ne veut pas que tu sois heureux en fait. Il veut que tu répondes à des normes, à des règles. Ça, vous savez, hein, 9 fois sur 10, quand vous connaissez des gens qui ne sont pas chrétiens et que vous parlez de l'évangile, alors je ne peux plus aller dans un restaurant, quoi. Alors je ne peux plus rire, quoi. Alors je ne peux plus m'amuser avec des amis, quoi. Alors je ne peux plus boire un verre de vin, quoi. Alors je ne peux plus aller à un spectacle, quoi. Alors je ne peux plus regarder une télé. Non. Ça, c'est Satan qui dit aux gens, Dieu veut prendre ta liberté. Alors que lui sait très bien que c'est justement dans le péché que tu es piégé et que tu perds ta liberté. Il sait bien que c'est dans ta dépendance à la drogue, à l'alcool et au sexe que là, tu perds ta liberté. Et tu voudrais tellement t'en sortir. Et là, tu es piégé, attaché, pieds et poings liés par les mensonges de Satan. Dieu veut nous rendre libres. Dieu veut que nous ayons une vie heureuse. Dieu veut au contraire que nous chassions le péché de notre vie, parce que c'est ça la vraie liberté. Parce que Dieu sait que quand le péché est dans mon couple, je casse mon couple, que quand le péché est dans ma famille, je casse ma famille, que quand le péché est dans l'économie mondiale est fichue, que quand le péché est dans la gestion de la planète entière est fichue. C'est ça que Dieu veut nous montrer, nous rendre libres. Mais Satan, son péché principal, c'est de dire « Dieu veut prendre ta liberté ». Fais ce que tu veux. Que Dieu est un Dieu terrible, qui condamne, ça aussi. Ça, très souvent, ça, Dieu, Satan, Dieu adore mettre Dieu en évidence comme ça. Comme quelqu'un qui est terrible et qui condamne. Non. Dieu sauve. Dieu libère. Dieu rend libre. Un domaine qu'il adore particulièrement, c'est de dire qu'il n'existe pas. Et ça, il réussit bien, hein. On le voit partout, on les voit sur les paquets de chips, on les voit sur les trucs des footballeurs, on le voit partout. Le diable, il est partout, on en rit partout, parce qu'il n'existe pas. Vous rigolez des choses qui n'existent pas, n'est-ce pas? Si vous connaissez un peu la vie de Baudelaire, c'est un enfer, sa vie. Hein, grand écrivain, mais il a touché à tout, il a une vie d'enfer. Et il a dit, tout en étant non-croyant, il a dit ceci que je trouve extraordinaire. La plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est un gars qui a tout fait qui a dit ça. Hein, il a touché à tout ce que vous pouvez penser et imaginer qui existait à l'époque, il l'a fait. Elle a dit, la plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable aime faire croire que la mort est la fin de tout. Qu'il n'y a rien après. Qu'il n'y a pas d'après. Personne n'est jamais revenu, n'est-ce pas? Et vous êtes là, moi, dans ma famille maintenant, il y a un monsieur de 92 ans qui a un cancer, qui en a encore pour combien, je ne sais pas. Et il sait
théorie de Nietzsche, désir du néant. Rien après la mort, rien. Et j'étais tellement mal au cœur. Mais ça, c'est l'œuvre de Satan. Faire croire à l'homme qu'après, il n'y a rien. C'est pour ça que les gens, la plupart, en tout cas, ceux qui avaient l'emblème de francs-maçons ou ceux qui avaient les emblèmes de libres penseurs sur leur tombe, enfin, ou pas sur leur tombe, mais sur leur petit pot, leur petite urne, c'est pour ça que la plupart des gens voulaient se faire incinérer. Pour faire un pied de nez à Dieu. Non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien après la mort. Donc, moi, je prends mon corps et je le brûle et je le jette en poussière. Je n'ai pas dit qu'on a tous cette conviction-là quand on se fait incinérer. Mais le point de départ de la notion de l'incinération, c'est ça. Pourtant, quand vous avez vu un mort, vous savez très bien que ce n'est plus un vivant. Vous savez très bien que cette enveloppe qui est là, même si c'est votre père ou votre mère que vous avez aimé, que vous avez tenu dans vos bras, vous ne tenez plus dans vos bras. Parce que ça, ce n'est plus votre père, ce n'est plus votre mère. Votre père et votre mère, il est sorti de ça, il est ailleurs. Son âme est partie, mais ça, cette enveloppe qui reste là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Vous le savez intuitivement. Satan, lui, il va nous faire croire que, après la mort, il n'y a plus rien. Dans le texte que nous avons lu, il y a trois attitudes de Satan qui me paraissent intéressantes pour nous. C'est le mensonge de Satan avec l'autosuffisance. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors, la tentation ici qui est offerte à Jésus, c'est « Ne compte pas sur ton Père, utilise tes propres forces. » Autosuffisance. Chaque fois que dans le mensonge, Satan vient vous dire contre Dieu, « Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. » C'est le mensonge de l'autosuffisance. C'est vrai que Jésus savait changer les pierres en pain. Il a multiplié des pains combien de fois? Donc il savait le faire. Le problème, c'est que Jésus n'est pas venu dans le désert pour venir montrer à Satan qu'il peut prendre une pierre et faire du pain avec. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. En fait, Dieu l'a fait venir pour autre chose. Alors Jésus ne veut pas prendre la place de Dieu. Satan nous piège souvent avec l'autosuffisance. Et Jésus va répondre, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Mais plus loin, il dira quelque chose de bien plus fondamental par rapport à ce passage-ci. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Il n'est pas venu pour montrer à Satan qu'il peut changer une pierre. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Alors il ne s'occupe pas de ce que Satan lui demande. Méfions-nous du mensonge de l'autosuffisance. Le mensonge de l'autodétermination. Le diable le transporta dans la ville sainte, il le plaça sur le haut du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges pour toi, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est la tentation la plus bizarre, je trouve. Bizarre quand même, hein. Pas si bizarre que ça, finalement. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Je fais la volonté de mon Père. Ah, fais la volonté de ton Père. Attends. Alors on va jouer sur l'autodétermination. Tu connais la volonté de ton Père? Tu sais ce qu'il a dit ton Père? Alors fais-le. Le diable, il agit toujours comme ça. Il part d'une situation qui est la vérité. Si tu es le Fils de Dieu, alors. Et dans notre vie, il fait la même chose. Si ton mari est méchant avec toi, ah, ça c'est vrai. Eh bien, alors, sois encore plus méchante avec lui. Ah, ça, c'est pas nécessairement la bonne attitude. Si tu es le meilleur élève de ta classe, le plus malin, le plus doué, ah, ça c'est peut-être vrai. Alors, méprise les autres qui sont plus bêtes que toi, hein. Ça, c'est pas le bon plan. C'est toujours comme ça que fait Satan. Il part d'une vérité. Cette vérité, tu l'acceptes, tu l'intègres, et puis il te propose un truc où tu es piégé. La muraille ici, ça fait 150 mètres de haut. Et Satan va dire à Jésus, mais tu connais la parole de Dieu, Donc, utilise cela, détermine les circonstances. En quelque sorte, ce que Satan demande à Jésus, c'est de prendre le plan de Dieu et de le changer pour lui en fonction de ce qu'il dit. Oh, mon Père Céleste me garde comme une poule qui tient ses bébés sous ses ailes. Ah ben, alors je roule à 250 à l'heure sur l'autoroute et de toute façon, il va envoyer des anges parce que je suis quand même sous son aile protectrice. Non. Je change le plan de Dieu à cause d'une promesse de Dieu, mais en déterminant les choses moi-même. C'est la tentation qui est faite ici. Vous imaginez si Jésus avait fait ça? Vous imaginez l'impact qu'il aurait eu? Les milliers de gens qui étaient là au temple et qui voyaient quelqu'un qui se mettait sur le mur, qui se jetait dans le vide et que 150 mètres plus bas, il s'arrêtait comme sur un coussin, il se levait, il faisait coucou à tout le monde. Vous imaginez ce qui se serait passé? C'était pas le plan de Dieu, ça. Jésus n'est pas venu pour faire des pitreries au-dessus du mur de Jérusalem. Ça, c'était le plan de Satan. Jésus, il est venu pour aller à la croix à Jérusalem. Le mensonge de l'autodétermination. Troisième mensonge dans ce texte. Le mensonge de l'autosatisfaction. Et ça, je pense que souvent, le diable, il nous piège facilement avec le mensonge de l'autosatisfaction. Le diable transporta encore sur une montagne très haute, il lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, et il lui dit, je te donne tout cela si tu te prosternes et que tu m'adores. Alors, je pense que c'est virtuel ça, il n'y a pas une montagne où on peut monter et voir tous les royaumes du monde. Je pense que Satan a montré à Jésus tous les royaumes du monde, les pyramides d'Égypte, l'empire de Rome, l'empire d'Égypte, l'empire des Grecs, l'empire européen, les empires, tout, tout. Il a dit, si tu te prosternes, tout est à toi. Alors que tout est à Christ. Au commencement était la parole était Dieu, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole vint habiter parmi nous. Tout est à Christ. Il a tout fait, tout lui appartient. Et nous savons que tout sera mis sous sa autorité et sa gloire. Donc, Satan propose à Jésus quelque chose qu'il a déjà. Mais, autosatisfaction. Mais puisque tout est à toi, prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Est-ce que tu dois vraiment, pour récupérer tout ce qui est à toi, aller jusqu'à Jérusalem, avoir les clous dans tes mains, avoir les clous dans tes pieds, la couronne sur ta tête, avoir les crachats, les coups de fouet, tu dois vraiment avoir tout ça? Tu ne peux pas le prendre maintenant? Fais-toi plaisir maintenant. Combien de fois le diable nous atteint dans ce mensonge? Fais-toi plaisir maintenant. La question qui se pose, dernier dimanche de l'année, est-ce que nous avons besoin de nous reconsacrer à Dieu? Est-ce que nous avons besoin de nous libérer de certains mensonges de Satan? Vous les connaissez dans votre vie, les choses qui vous tiennent en esclavage. Est-ce que j'ai besoin de me libérer de certains mensonges de Satan? Je le rappelle, vite fait, le bonheur est dans le mal. Dieu veut te priver de liberté. Faux. Dieu est un juge terrible. Faux. Dieu nous offre le pardon, l'amour. Le diable n'existe pas. Faux. Il est bien réel. La mort est la fin de tout. Faux. Quantité de gens vont se retrouver qu'ils auront cru qu'ils ont tout réglé ici-bas. Mais c'était que le commencement. Le mensonge de l'autosuffisance. Tu n'as pas besoin de faire ce que Dieu demande. Fais par toi-même. Mensonge de l'autodétermination. Dieu te fait des promesses. Eh bien, vas-y, fais comme tu veux. Le mensonge de l'autosatisfaction. Allez, fais-toi plaisir maintenant. Avons-nous besoin de nous reconsacrer à Dieu? Moi, j'ai besoin. Moi, je veux. Moi, je veux encore et encore, et je crois à la victoire par la foi. Moi, je veux en faisant confiance à ce que promet l'Écriture. Moi, je veux en faisant confiance à la victoire acquise par Jésus-Christ à la croix, qui cloue notre chair, qui cloue nos passions, qui cloue les emprisonnements où Satan veut nous maintenir. Vous avez vu dans la fin du passage, quand il a réglé ses réponses, Jésus dit à Satan, retire-toi de moi. Et Satan s'en va, cherchant une occasion plus favorable. Il se retire jamais tout à fait. Il va chercher une occasion plus favorable. Et là, les anges viennent servir Jésus. Retire-toi de moi. Je crois que si nous devions retenir une chose, peut-être ce matin, c'est retire-toi de moi. C'est ces moments où nous sentons que nous nous laissons piéger par le mensonge du diable, avoir cette autorité de pouvoir dire non, retire-toi de moi. Tu me mens, retire-toi de moi.
J'ai vu que Saint Augustin, 4e, 5e siècle, hein, père de l'Église, lorsqu'il s'est converti, c'est aussi un homme qui avait une vie de débauche très très impressionnante. Et j'ai vu que quelques années après sa conversion, il était revenu dans des quartiers où il avait plusieurs femmes, plusieurs maîtresses. Et il y a une des femmes qui le reconnaît et qui crie après lui, qui dit « Saint Augustin !» Et lui, il s'en va, on attend le pas. Et puis la femme, elle insiste, elle le rattrape, elle dit « Mais Saint Augustin, c'est moi, c'est ta maîtresse !» Et Saint Augustin la regarde et lui dit « Je sais, je t'ai reconnu. » Je sais, mais moi, je ne suis plus le même, Augustin. Retire-toi de moi. Dans ce mot, retire-toi de moi, nous avons une puissance de victoire extraordinaire. Si nous choisissons selon la vision de Dieu, retire-toi de moi. Je crois que je ne dis pas assez souvent dans ma vie, non, retire-toi de moi. Pensons à Saint Augustin. On raconte l'anecdote d'un propriétaire qui avait des transports à faire avec des charrettes et des chargements, des chevaux. Et alors, il cherche un conducteur. Et alors, il dit au premier candidat, « Mais tu vois le précipice immense qui est ici au bord. Jusqu'où est-ce que tu te crois capable d'aller avec tout le chargement ?» Alors le gars, il analyse, il examine, il regarde, il mesure, il dit, « Moi, je peux aller jusqu'à 1 mètre. » 1 mètre du précipice. Alors, le propriétaire dit, waouh. Et puis, il y a un autre candidat, il dit, et toi, jusqu'où est-ce que tu crois que tu peux aller? Alors, il regarde la même chose, il examine, regarde les roues de la charrette et tout. Il dit, moi, je peux aller jusqu'à 50 centimètres du précipice. Waouh, dit le propriétaire. Et là, il y a un troisième candidat, il dit, et toi, jusqu'où tu peux aller avec mon chargement? Et lui, il lui répond, moi, je vais me tenir le plus loin possible du précipice. Et le propriétaire lui dit, c'est le bon choix. Tiens, prends mon chargement et va le conduire, il faut le conduire. Puissions-nous faire la même chose devant les mensonges de Satan? Pas commencer à nous dire, moi je peux aller jusqu'à 1 mètre des mensonges de Satan. Moi je peux aller jusqu'à 50 centimètres des mensonges de Satan. Non, retire-toi de moi. Allons le plus loin possible des mensonges de Satan. Amen.